la flèche irréprochable. Philippe Frétinier sur Radio Grand Ciel.
J'ai, dans la dernière émission, commencé à parler du plan de la cathédrale, dernière émission qui date à cause des différents confinements. Et je disais, pour rappel, que la nef de Fulbert était très large, puisque bon, on ne construisait pas encore de voûte à ce moment-là, donc on pouvait faire des édifices assez larges avec une charpente en bois. J'ai expliqué que c'était le plan basilical qui vient donc de... en droite ligne de l'Antiquité romaine, des nefs à plusieurs vaisseaux, le vaisseau central et puis des collatéraux, un ou deux en plus. C'est comme ça que Saint-Pierre de Rome était bâti, avec deux collatéraux. Et donc, les fondations des murs étaient très espacées, plus de 16 mètres. Et quand il s'est agi, après l'incendie de 1194, de reconstruire l'édifice qui avait été très endommagé, à l'exception notable d'une partie de la façade principale, comme toujours à l'époque, on essaye de faire au plus simple, on étale les gravats de l'incendie précédent. C'est comme ça qu'à Chartres, dans certains quartiers, il y a plusieurs étages de caves dans les maisons, parce qu'on n'a pas les engins de nivelage dont on dispose aujourd'hui. Et puis, on a tendance quand même à réutiliser les fondations. Je dis on a tendance parce que c'est évidemment toujours des exceptions. Mais ça va être le cas à Chartres. Et donc, le premier maçon qui va... Je perds vraiment de maçon, de maître maçon, parce que la maîtrise d'ouvrage, d'ailleurs comme aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas l'architecte, c'est au fond, c'est le commanditaire. La maîtrise d'ouvrage au XIIe siècle, c'est, en général, c'est le chapitre, c'est l'évêque qui délègue au chapitre la maîtrise d'ouvrage. Et donc... on décide de garder les fondations, les murs de la nef de la basilique de Fulbert. Et ça pose un problème qui va être résolu, qui va faire évoluer l'art dit gothique, c'est-à-dire qu'on a une grande surface à couvrir. Hein, 16 mètres 40, si ma mémoire est bonne pour la précision. Alors, ce n'est pas le cas des cathédrales précédentes, parce que justement, on a fait différemment dans les cathédrales précédentes. Et puis surtout, on a reconstruit sur des édifices qui n'étaient pas aussi larges que la basilique de Fulbert. Donc, pour le voûtement, il faut inventer quelque chose, parce qu'on s'aperçoit que le concept qu'on emploie dans les voûtes à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle une voûte sexpartite, une voûte en six parties, dessiné sur un plan carré. Comme ça fait une portée quand même relativement large, en général c'est 12-13 mètres, hein, 14 même, voire, mais on a donc une série d'arcs en travers de la nef, des arcs qu'on appelle les arcs doubleaux, le long des murs les arcs formerets, en diagonale les arcs ogifs. Et puis, ça fait quand même des caissons de voûte un peu grands. Et donc, on supporte au milieu de ce carré, dans le sens des arcs doubleaux, un nouvel arc, donc un arc supplémentaire, pour supporter le poids des voûtes. Sauf que l'inconvénient de ça, c'est qu'on a un pilier... On a des piliers à chaque angle du carré qui reçoivent donc trois arcs. L'arc doubleau, hein, encore une fois celui qui est en travers de la nef. L'arc formerait, celui qui est le long du mur. Et puis l'arc ogif. Et au milieu du carré, sur les côtés, le long des murs, on a un pilier qui, lui, ne supporte qu'un seul arc, qui est cet arc de renfort au milieu du plan carré de la voûte. Donc, il y a des forces qui se traduisent par des colonnes engagées, c'est-à-dire le pilier constitué d'un noyau avec des colonnes qui lui sont adossées, qui reçoivent les charges des différents arcs. Et donc, on a ce qu'on appelle une pile forte qui reçoit trois arcs, et une pile faible qui n'en reçoit qu'un. Alors, on va expérimenter dans la seconde moitié du XIIe siècle toutes sortes de subterfuges pour essayer d'harmoniser la taille des piliers, malgré leur rôle différent, avec plus ou moins de bonheur. À Paris, on trouve une solution assez élégante. Si vous rentrez dans l'aile Notre-Dame de Paris, vous ne serez pas frappé directement par cette différence de piliers. Mais enfin, personne n'est vraiment satisfait de cela. À Chartres, on a une portée en largeur très grande, encore une fois. On réduit donc la longueur des segments de voûte pour ne pas avoir des voûtins très importants qu'on ne pourrait pas soutenir. Et donc, on adopte un plan carré qu'on appelle le plan Barlon, et ce qui permet d'avoir des piliers qui sont égaux puisqu'ils vont recevoir le même nombre d'arcs, puisqu'on supprime l'arc intermédiaire du carré dans le sens de la longueur de la nef. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté à Chartres. Et on peut dire que de ce point de vue-là, d'ailleurs, comme d'autres points de vue sur lesquels on reviendra, il y a un avant-Chartres et un après-Chartres. Parce que avant-Chartres, alors je rappelle pour mémoire les différentes cathédrales, hein, Saint-Denis, Sens, Senlis, Noyon, Laon, Paris, dont le chantier dure plus longtemps que Chartres, ce qui fait que la cathédrale de Paris est en chantier en même temps que celle de Chartres, même si le chantier a commencé avant, hein, aux alentours de 1160, avec le fameux Robert de Sully. Et donc, à partir de Chartres, il y a vraiment un plan type qui s'impose, alors que dans les différentes cathédrales que j'ai citées et qui la précèdent, on expérimente différentes formules. Nous allons écouter de Jean Titlouze, 1563-1633, donc un homme de la Renaissance, deux pièces. La première, c'est un verset d'une œuvre qui s'appelle « Exultet Cœlum ».
Radio Grand Ciel.
Donc, Chartres fait vraiment annonce les cathédrales qui vont lui succéder, parmi les plus notables, en tout cas qui sont terminées au niveau du plan, c'est-à-dire Amiens et Reims, et puis non terminées au niveau du plan Beauvais, puisque à Beauvais nous n'avons que le chœur. Et il y a souvent une confusion que je m'empresse de corriger. On parle d'un effondrement à Beauvais, et ce qui est vrai. Donc les gens pensent que c'est à cause de ça qu'il n'y a que le chœur. Mais la nef gothique n'a jamais été construite à Beauvais. Si vous allez à Beauvais, vous verrez que la nef romane est en partie toujours là. Et d'ailleurs, elle est infiniment plus basse que la voûte du chœur. Donc c'est une tour juste au-dessus de ce qui aurait été la croisée des transepts qui s'est effondrée. C'est ça qui s'est effondré, mais pas la nef. Je ferme la parenthèse. Et donc, en même temps que Chartres, il y a une autre cathédrale que personnellement j'aime beaucoup, que je trouve aussi belle que Chartres. C'est un très très beau vaisseau. C'est la cathédrale de Bourges, qui est sans transept, avec justement toujours cette idée d'un vaisseau à cinq compartiments, c'est-à-dire la nef centrale et deux collatéraux, sauf que le premier collatéral, celui qui est contigu à la nef, est lui-même assez haut. Donc on a des hauteurs décrescendo et c'est très 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 beau, avec en plus de très beaux vitraux dans le chœur. Malheureusement, Bourges n'a pas conservé tous ses vitraux comme Chartres. Mais donc, c'est vraiment deux chantiers qui sont contemporains. Mais il se trouve que ce n'est pas la formule expérimentée à Bourges qui va l'emporter, c'est vraiment le plan chartrain qui va devenir le plan type des cathédrales. Et ça, c'est vraiment la spécificité de Chartres qui ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'architecture gothique. Alors évidemment, la différence, c'est qu'on va continuer à faire plus haut, plus grand. C'est beaucoup lié à la vanité des commanditaires et puis sans doute aussi au goût des maîtres maçons de pousser plus loin leur prouesse d'aller sans cesse de l'avant. Alors à Chartres, il y a donc la contingence de la nef de la cathédrale de Fulbert, parce que Fulbert a fait bâtir une grande crypte en forme de fer à cheval tout autour du bâtiment du vaisseau principal. Et c'est ça qui détermine l'emplacement des fondations. Donc on a les fondations qui supportent les murs de la nef. Et puis, probablement qu'il y avait un collatéral. Et donc, une autre rangée distante de dizaines de mètres, même un peu moins même, qui supportait donc les piliers et les murs goutteraux des couloirs des bras de la crypte. Donc cette crypte longe tout le vaisseau, c'est-à-dire qu'elle part quasiment des clochers actuels, puisque la façade de la cathédrale suivante de Fulbert a été un peu avancée. Et donc, le premier maître maçon qui vient et qui doit établir le plan général de l'édifice, il est confronté à cette contingence-là, c'est-à-dire une largeur de voûte exceptionnelle, et puis cette implantation du bâtiment de Fulbert avec la crypte qui fait un grand U, et donc on a conservé la crypte. Alors à Chartres, il n'y a qu'un seul collatéral. Par exemple, si vous allez à Paris, il y en a deux. Et donc, ça, c'est la première contingence. La deuxième contingence, c'est quand même que, quand je dis qu'on a avancé la façade de Fulbert, il faut rester prudent parce qu'il y a différentes écoles. Certains disent que non. En fait, la façade de Fulbert aurait pu être dans un premier temps entre les deux clochers comme aujourd'hui, mais à l'arrière des clochers ou à l'avant des clochers. Donc, par honnêteté, je signale les deux écoles qui ne sont pas toujours tranchées. Et donc, en tout cas, les deux clochers sont déjà là, puisque on a transformé la cathédrale de Fulbert dans les années 1140, et on a justement construit une façade avec trois porches, ce qu'on voit aujourd'hui, et donc les deux tours de chaque côté encadrant les trois porches. Et cette façade, miraculeusement, probablement à cause de la présence d'une tribune qui n'existe plus, ont été protégées de l'incendie, y compris les vitraux qui sont toujours là, qui sont les seuls vitraux du XIIe siècle, c'est-à-dire les trois vitraux de la façade principale sous la rose, et puis dans le tour du chœur, le vitrail de la Belle Verrière, ce sont les quatre seuls vitraux du XIIe siècle, et on voit très bien à la fois l'armature orthogonale des vitraux qu'on peut comparer à l'armature des vitraux du XIIIe siècle, où on se sert de l'armature pour dessiner des géométries, donc on voit très bien cette première différence. Et puis en même temps, même stylistiquement, si on s'attache à regarder vraiment les scènes représentées, on voit une différence. Donc on a voulu garder cette façade avec ses merveilleux vitraux. Donc, dans la longueur, l'implantation de la façade occidentale est déterminée par les traces de l'édifice précédent. Et puis probablement qu'il y avait vraiment cette volonté de conserver au maximum. Donc la crypte dessine l'extrémité orientale de la cathédrale. On a un bâtiment qui fait à peu près 125 mètres de long. Et donc, à l'intérieur de ça, le premier maître maçon, ce qu'il a commencé par dessiner, c'est en fait le grand carré de l'emplacement de la croisée des transepts. Alors, j'insiste sur cette notion de carré parce que au XIIIe siècle, on est encore techniquement vraiment dans des bases, des choses assez basiques. C'est-à-dire que ce qui sert pour élaborer un plan, c'est essentiellement la géométrie. Les maîtres maçons ne sont pas des gens qui ont des connaissances mathématiques poussées. Par l'expérience, on commence à comprendre comment les forces se répartissent, mais on ne les maîtrise pas, on ne sait pas calculer une résultante, par exemple. Donc, c'est vraiment la géométrie qui détermine le plan. Donc, on a ce grand carré qui fait la croisée des transepts, puisqu'on a décidé qu'il y aurait un transept. Je rappelle qu'à Chartres, le transept est aussi grand que, par exemple, l'église Saint-Eustache à Paris. Hein, c'est considérable. Et entre ce carré qui dessine le carré des transepts, le maître maçon va dessiner autour de ce carré quatre carrés vers l'ouest, donc quatre travées avec, après le sanctuaire, et quatre travées dans la nef parce que il veut utiliser les symboles le fait du quadrivium, hein, 4 plus 3. Alors 4, c'est le monde terrestre, 3, c'est le monde céleste. Donc, il pose cette première géométrie. D'ailleurs, à partir du carré du transept, les transepts font 3 travées. Hein. Dans la nef, les 4 travées qui partent du carré central ne suffisent pas pour aller rejoindre la façade, bien sûr. Et donc, le maître maçon décide d'ajouter 3 travées. Donc, ça fait 4 plus 3, ça fait 7, c'est un symbole divin. Et puis, on a cette signification du monde terrestre et du monde céleste et qui renvoie aussi aux arts libéraux, les 7 arts libéraux. Alors, ce qui est très intéressant à Chartres, c'est qu'on voit bien que la priorité, c'était vraiment le schéma central, hein, du carré des transepts avec les 4 premières travées de part et d'autre, encore une fois vers le chœur et vers la nef. Ces travées sont pratiquement de la même dimension. Quand on mesure avec le laser aujourd'hui, évidemment, on trouve toujours des variantes, mais on peut dire que c'est la même dimension. Et si vous regardez attentivement, quand vous rentrez dans la cathédrale, les 3 travées, celles qu'on voit en premier quand on rentre par le portail royal, vous verrez que ces travées vont, en changeant de dimension, vont en diminuant à partir de la quatrième travée, à partir du carré des transepts. C'est-à-dire qu'on a une première travée relativement large, qui essaye d'être à peu près en harmonie avec la travée précédente, une deuxième travée un peu moins large, et puis une troisième travée beaucoup moins large. Et on le voit très bien quand on rentre dans la cathédrale. Nous allons écouter le troisième verset de l'Exultat Solum de Jean Titlouz.
Radio Grand Ciel.
Quand nous regardons aujourd'hui et que nous observons vraiment ce dessin de la nef avec ce 4 plus 3 et ce 3 travées inégales, nous qui sommes toujours habitués à une sorte de régularité, de perfection, on a du mal à comprendre, mais ça, c'est un effort que l'on doit faire pour comprendre l'imaginaire médiéval. À partir du moment où le maître maçon avait établi son schéma de départ, qui est très, très bien équilibré, le fait de diminuer la largeur des travées pour pouvoir s'inscrire dans la fin de la quatrième travée et la façade qu'il doit rejoindre, ce n'était pas très important que les travées ne soient pas égales. Donc, vous le verrez d'ailleurs, parce que si vous regardez bien, vous verrez que dans la première travée que l'on voit quand on rentre dans la cathédrale et dans la deuxième travée, le nombre d'arcatures du triumphorium est différent. Donc, on voit vraiment très, très bien la différence. Et donc, la géométrie va servir pour tout, absolument toute la conception de l'édifice, y compris dans l'appareillage, c'est-à-dire la taille des pierres. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que plusieurs équipes et plusieurs maîtres maçons se sont succédés sur le chantier. J'en ai un peu déjà parlé, mais j'y reviendrai. Et chacune de ces équipes a des géométries différentes. Et donc, il faut imaginer que c'est comme si aujourd'hui, on commençait à construire un édifice avec un système de mesures. Et puis, on continue avec un autre système de mesures. Par exemple, on commence avec des mètres, et puis on continue avec des pieds anglais. Et malgré ça, les choses se raccordent assez bien. C'est ça qui est incroyable. Et donc, le deuxième maître maçon qui est arrivé sur le chantier s'est adapté. Il avait sa géométrie, donc un appareillage différent, ce qui nous permet de lire la chronologie de la construction de la cathédrale, parce que à chaque fois que dans un lit de pierre, la taille des pierres change, l'appareillage change, ça veut dire un changement d'équipe. Ça a été le grand apport d'un architecte australien bien connu à Chartres qui s'appelle John James, qui a fait un livre qui s'appelle « Les constructeurs », parce que c'est essentiellement sur les gens qui ont construit la cathédrale, mais bien entendu, il raconte la construction de la cathédrale à travers eux. Et lui a vraiment utilisé la géométrie comme fil conducteur. Alors, la géométrie, ça passe par toutes sortes de choses. Donc, un système de mesures, en quelque sorte, qui définit l'appareillage, des formes de dessin. Justement, John James a identifié, par exemple, ce qu'on appelle les corbeaux, c'est-à-dire ces pierres qui sont assaillies pour supporter un linteau sur une ouverture. John James a fait le catalogue des différentes formes de corbeaux qui correspondent donc à des géométries, des dessins géométriques, et ils varient suivant les équipes. Donc on a vraiment la chronologie en direct. Alors il faut je sais que John James est critiqué. Je crois que bon, il est surtout critiqué parce qu'il a apporté une chose auquel personne n'avait pensé avant. Puisque lui s'est décidé à, j'en dis un mot, s'est décidé à étudier la cathédrale à la suite d'une maladie pendant laquelle il a découvert la cathédrale de Chartres par les livres, et il n'était pas satisfait de ce qu'il lisait. Il a réfléchi, il s'est dit, mais je comprends pourquoi ça ne me convient pas. C'est que les gens qui parlent de construction sont des historiens de l'art tout à fait respectables, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'être confrontés à construire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a intitulé son livre « Les constructeurs ». Je ferme la parenthèse. Il y a des critiques peut-être un peu corporatistes, mais il y a aussi des critiques sur des points de détail, parce qu'évidemment, comme une personne qui découvre un nouveau système, il y a peut-être justement une systématisation trop dure, trop rigoureuse de la description de la construction. Alors, nous allons écouter un extrait de la messe pour les couvents de François Couperin. Donc, on est un peu plus tard que Jean Titlouze. Et c'est une pièce qui correspond, pendant la messe, à l'élévation. C'est une tierce en taille.